Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est plus qu'une vague, c'est un raz-de-marée électoral pour l'extrême droite au Brésil. Son héros, Jair Bolsonaro, a recueilli près de 47% des voix hier au premier tour de la présidentielle, largement en tête devant le candidat de gauche Fernando Haddad du Parti des Travailleurs. Un vote sacocheio, expression d'un ras-le-bol. Vous l'entendrez avec notre envoyé spécial dans un instant.
Et puis pour ceux qui en doutaient encore, la planète brûle et plus vite que prévu. Le monde doit engager des transformations rapides et sans précédent s'il veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, alerte ce matin le GIEC, les experts climat de l'ONU.
À la une encore, le groupe suisse UBS jugé aujourd'hui pour un vaste système de fraude fiscale, notamment vis-à-vis de la France. Procès à partir d'aujourd'hui à Paris.
Et puis la question du jour, Catherine, dans une dizaine de minutes, héritage, faut-il réformer les droits de succession pour réduire les inégalités? On posera la question à Nicolas Frémaux, maître de conférence en économie à Paris 2.
Il arrive très largement en tête du premier tour de la présidentielle au Brésil. Jair Bolsonaro, candidat de l'extrême droite, ancien officier nostalgique déclaré de la dictature militaire, a recueilli hier près de 47% des voix, devançant largement le candidat du Parti des Travailleurs, Fernando Haddad, crédité lui de 29% des voix, lui qui a remplacé au pied levé l'ex-président Lula, icône de gauche, aujourd'hui emprisonné. Un duel gauche-extrême droite au second tour de la présidentielle le 28 octobre prochain. Dans un Brésil qui a rarement été aussi divisé. Bonjour Olivier Poujade.
Bonjour Catherine.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Culture à Rio. Jair Bolsonaro a donc surpassé tous les espoirs de son camp, l'extrême droite.
Oui, il faut bien se rendre compte que l'ancien militaire était il y a un an encore totalement en dehors des radars. Il n'avait que 4% des intentions de vote dans les sondages et le contexte fait qu'il arrive aujourd'hui largement en tête. 12% de chômage, une violence endémique, le ras-le-bol des Brésiliens vis-à-vis des partis traditionnels, ras-le-bol d'une corruption profondément ancrée dans la classe politique, une économie à plat. Les réponses de Bolsonaro sont radicales. Autorité, libéralisation des armes, défense des valeurs traditionnelles et ultra-libéralisme.
Il ne nous reste à présent que deux chemins. Celui de la prospérité, de la liberté, de la famille. Et de l'autre, il nous reste le chemin du Venezuela.
Diaboliser la gauche sud-américaine, se servir de l'éviction de Lula, de la course à la présidence pour occuper l'espace. Bolsonaro a parfaitement capté le sentiment de rejet vis-à-vis du PT, le Parti des Travailleurs, dont l'ancienne présidente Dilma Rousseff a elle-même fait les frais. Elle est éliminée dès le premier tour au sénatorial dans l'état de Minas Gerais.
Et Fernando Haddad, le candidat de gauche qualifié lui au second tour de la présidentielle, appelle les Brésiliens à voter pour lui, à voter pour le Parti des Travailleurs, car selon lui, la démocratie est en danger avec l'extrême droite de Jair Bolsonaro.
Oui, mais ce sera très compliqué pour Fernando Haddad au deuxième tour. Il aura besoin effectivement d'un véritable front républicain. Il a d'ailleurs appelé tous les autres candidats à le soutenir pour combattre le racisme, la misogynie, l'homophobie de Bolsonaro. Pas sûr qu'il y arrive, mais Fernando Haddad, comme beaucoup de gens ici, vous l'avez dit, considère que la démocratie est en danger.
Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses en jeu dans le Brésil actuel. Beaucoup de choses sont en danger. C'est une élection peu commune, différente de tout ce qu'on a connu depuis 1989. Nous allons affronter ce débat avec une unique arme, l'argument.
Voilà, il lui reste 3 semaines pour reprendre le contrôle. Haddad sait que Bolsonaro n'est pas à l'aise dans le débat en face à face, que son adversaire n'a pas justement les arguments. Il compte s'appuyer là-dessus pour renverser la tendance.
Olivier Poujade en direct de Rio pour France Culture. Merci à vous, merci à Romain Lucquens à la technique. L'extrême droite aux portes du pouvoir, on l'entendait au Brésil. En Europe, l'extrême droite donne aussi de la voix. Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, a prévenu hier qu'il fermerait tous les aéroports de son pays si l'Allemagne s'avisait d'y envoyer des charters de migrants, comme l'affirmaient certains médias allemands et italiens. Ces charters concerneraient principalement des demandeurs d'asile du Nigeria étant entrés en Europe par l'Italie, sur le modèle de ce que Berlin a déjà fait avec la Grèce et l'Espagne. Mais les négociations traînent en longueur avec Rome. Et hier soir, le ministère allemand de l'Intérieur a indiqué qu'aucune reconduite de migrants n'était prévue vers l'Italie dans les prochains jours. La lutte contre l'immigration encore. Marine Le Pen en parlera aujourd'hui à Rome. Rencontre avec Matteo Salvini, le ministre italien donc de l'Intérieur, à la tête de la Ligue, parti d'extrême droite. Tous deux veulent construire une alternative à l'Union européenne avant les élections de mai prochain. Et Matteo Salvini Salvini pourrait bien inspirer la présidente du Rassemblement National, selon le politologue Marc Lazare, chercheur à Sciences Po Paris et à l'Université Louis de Rome.
Marine Le Pen, en venant à Rome et rencontrant Matteo Salvini, veut essayer de bénéficier de la popularité assez extraordinaire de Matteo Salvini. Matteo Salvini réalise ce qu'elle n'a pas pu faire. Il occupe la scène publique italienne et européenne, et Marine Le Pen, qui est quand même dans une situation un peu difficile après son échec, peut essayer de se ressourcer auprès de Salvini. Et leur ambition, c'est d'être une force dominante, peut-être pas et sans doute pas majoritaire, mais qui pèsera considérablement sur le Parlement européen. Et de ce point de vue-là, ils ont en tout cas un adversaire commun. Et cet adversaire porte un nom, il s'appelle Emmanuel Macron. Matteo Salvini, au niveau européen, il a besoin de cet ennemi, il n'y a pas d'autre mot. Et Marine Le Pen, évidemment, en politique intérieure française. Donc là, le fait d'avoir un ennemi commun contribue alors encore plus à leur rapprochement.
Marc Lazare, chercheur à Sciences Po Paris et à l'Université Louis de Rome, au micro de notre correspondante à Rome, Mathilde Imberti. L'autre visage de la question migratoire en Italie pourrait bien être le maire d'un village de Calabre, village Riace, repeuplé depuis 20 ans grâce aux arrivées de migrants. Domenico Lucano, le maire, a été arrêté la semaine dernière. Une manifestation pour le soutenir était organisée ce week-end à Riace, en Calabre. C'est le reportage de la rédaction à suivre à 7h24 sur France Culture. Les gardes-côtes espagnols ont annoncé hier avoir secouru en Méditerranée près de 1200 migrants ces dernières 48 heures. L'Espagne, première porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe depuis que l'Italie a fermé ses ports à des navires d'ONG. Les enjeux migratoires européens au cœur aujourd'hui d'un G6 des ministres de l'Intérieur qui se tient à Lyon. On y revient dans le journal de 7h30.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. L'heure n'est plus au constat mais aux transformations rapides et sans précédent pour limiter le réchauffement climatique.
Pour le limité à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Au-delà de ce seuil, le GIEC, les experts climat de l'ONU, alertent ce matin sur des risques accrus pour la planète. Des vagues de chaleur, extinction d'espèces, déstabilisation des calottes polaires, source de montée des océans sur le long terme. Bonjour Véronique Roberotte.
Bonjour.
Les experts du GIEC appellent donc à des transformations rapides et sans précédent pour éviter de nouvelles catastrophes.
Mais pour tous ceux qui en doutaient encore, la planète brûle vraiment et l'heure est bien à l'action immédiate au Big Bang écologique. Pour éviter le pire, les deux prochaines années seront les plus importantes de notre histoire, lit-on dans le rapport. Dans ce document destiné aux décideurs politiques du monde entier, les experts mondiaux du climat décrivent des impacts catastrophiques pour la planète au-delà de 1,5 degré de réchauffement, les 1,5 degrés qui pourraient être dépassés dès 2030, soit 70 ans avant l'horizon 2100 fixé par l'accord de Paris sur le climat. C'est pourquoi, dit le rapport, tous les secteurs sont appelés à s'atteler à de profondes réductions d'émissions de gaz à effet de serre, transport, industrie, énergie, bâtiment. Avec cet objectif, il faut que les émissions de gaz à effet de serre mondiales chutent de 45% en 2030, puis tombent à zéro autour de 2050. Un mouvement, je cite, sans précédent, car impliquant tous ces secteurs à la fois. Pas d'autre choix, par exemple, que de faire passer la part des énergies renouvelables de 20 à au moins 70% dans la production d'électricité mondiale et de laisser tout le charbon dans le sol d'ici 2050. La bonne nouvelle, dit aussi le rapport, c'est qu'il peut suffire d'accélérer des actions en cours de lutte contre le réchauffement climatique partout dans le monde pour réussir, à condition qu'il y ait une vraie volonté politique collective et est-on tenté d'ajouter une vraie pression populaire.
Véronique Roberotte, merci pour cette analyse. Une affaire à présent digne des plus grands thrillers. La disparition de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien, féroce critique du pouvoir et porté disparu depuis mardi dernier après être entré au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. La police turque pense que le journaliste aurait été tué au consulat par une équipe venue spécialement à Istanbul. Lui est porté disparu depuis plus de 10 jours. Meng Hongwei a démissionné de la présidence d'Interpol, annoncé hier soir de l'organisation internationale de police criminelle qui siège à Lyon. La Chine, elle, sort de son silence et annonce officiellement ce matin qu'une enquête pour corruption a été ouverte contre Meng Hongwei. C'est le grand procès de l'évasion fiscale à Paris. Sont jugés à partir d'aujourd'hui la banque suisse UBS, sa filiale française et 6 anciens cadres. Le tribunal correctionnel va se pencher à partir d'aujourd'hui sur les carnets du lait et le fichier vache ou comment les banquiers suisses venaient traire les fortunes françaises. L'affaire a éclaté grâce à des lanceurs d'alerte, en particulier Nicolas Forissier. Il était le contrôleur interne du BS France et il a bien fait son travail, ce qui lui a valu d'être licencié en 2009. Il nous explique comment il a découvert la fraude fiscale.
Je me suis rendu compte parce que j'étais dans un établissement, un qui ne gagnait pas d'argent, qui était toujours déficitaire, qui avait des chargés d'affaires français qui n'avaient pas de clients en France ou très peu, et si vous voulez, qui touchait des bonus colossaux. Donc quand on ne travaille pas, qu'on n'a pas de chiffre d'affaires, qu'on n'a pas de clients et qu'on perçoit des bonus, on se demandait où était le business. Et c'est là que vous commencez à étudier, à analyser, à enquêter, et puis vous tombez effectivement sur les carnets du lait. Alors, le carnet du lait, le fichier vache, est très simple. Bon, déjà, ce sont des appellations suisses. Hein. Historiquement, chez eux, ça permettait de tenir la comptabilité du lait, des alpages. C'était quoi? C'était un système de comptabilité parallèle qui permettait d'enregistrer de part et d'autre de la frontière les mouvements illégaux. Il ne reste que très peu de traces des carnets du lait parce que, à chaque fin de réunion sur les carnets du lait, tous les documents étaient détruits. Et croyez-moi que la direction financière de l'époque prenait un grand soin à détruire tous ces papiers-là. Tout ça, c'est de l'organisation. L'évasion fiscale chez UBS était un business model. Ce n'était pas une micro-activité dans son coin, ce n'était pas une niche. C'était son activité principale.
Nicolas Forissier, contrôleur interne d'UBS France, au micro de Sarah Guibaudot. Ils vendent des disques dans des dizaines de pays, font des concerts à Paris le lundi, à Rome le mardi, à Berlin le mercredi. Plusieurs dizaines de musiciens, dont Ed Sheeran, Sting, Damon Albarn, Bob Geldof, estiment que le Brexit menace leur activité. Ils ont tenu à le dire à Theresa May dans une lettre ouverte publiée hier dans The Observer. Ces musiciens réclament un second référendum au Tsoufi.
Le texte écrit par Bob Geldof a été signé par de grands noms de la chanson comme Sting, Paul Simon ou Ed Sheeran. Des dizaines d'artistes qui qualifient le Brexit de prison culturelle. Qu'il s'agisse de tournées, de ventes, de législation sur le droit d'auteur ou de collecte de redevances, le Brexit aura un impact sur tous les secteurs de l'industrie musicale. En fait, c'est déjà le cas, explique-t-il. La chute de la livre s'est traduite par une augmentation considérable des coûts d'équipement, de location de studios, sans oublier la baisse des revenus des ménages qui signifie moins d'argent pour aller dans les clubs et acheter de la musique et des t-shirts. La lettre adressée à Theresa May appelle donc à l'organisation d'un nouveau référendum sur la sortie de l'Union européenne, seule manière, dit l'auteur, d'empêcher que le Brexit ne bousille notre avenir. Ces chanteurs ne sont pas les premiers à donner de la voix pour l'organisation d'un nouveau vote. Rod Stewart avait lancé le même appel le mois dernier et Peter Gabriel avant lui, mais jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas changé de disque et refuse toujours cette hypothèse.
Aude Soufi à Londres pour France Culture. Le temps de ce lundi 8 octobre, pluvieux dans le sud-est, plus ensoleillé sur le reste de l'Hexagone. Les températures sont comprises ce matin entre 5 et 10 degrés en général, jusqu'à 17 près de la Méditerranée. Cet après-midi, comptez de 16 à 18 degrés de la Bretagne jusqu'à la frontière belge, ainsi que dans le sud de l'Aquitaine. Partout ailleurs, il devrait faire entre 19 et 23 degrés.